La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Philippe K. Dick est enterré au cimetière de Fort Morgan dans le Colorado où sa tombe l'attendait depuis 53 ans quand une crise cardiaque l'a emporté en 1982. Elle l'attendait en réalité depuis sa naissance aux côtés de sa sœur jumelle morte de malnutrition à seulement quelques semaines. Au moment de la mettre en terre, leur père avait déjà fait inscrire sur la tombe le nom de Philippe avec un tiret et l'espace laissé vide pour y inscrire l'année de sa mort. Voilà les auspices sous lesquels ont été placés la venue au monde de cet écrivain. Pas étonnant qu'il ait ensuite inventé le concept de demi-vie dans son roman Ubique où des êtres évoluent dans des sortes de limbes. Mais dans quel monde évoluons-nous ? Semble se demander Dick dans chacune de ses fictions. Est-il seulement réel ce monde ? A-t-il été inventé par une entité qui pourrait être Dieu ou une intelligence artificielle ? Eh bien, nous tentons d'éclairer la pensée de cet homme depuis lundi dans la compagnie, en commençant par la biographie proposée par Étienne Barillier. C'était au cours de notre premier épisode. Et puis, Laurent Kessy nous a fait faire un voyage dans les grandes thématiques de l'œuvre. Avant qu'Ariel Kirou ne nous donne son point de vue sur l'actualité de la vision de monde de Dick, c'était dans notre troisième numéro. Et aujourd'hui ?
Sans que je m'en rende compte, pendant toutes les années où j'ai écrit, ma réflexion et mes livres ont été un long voyage vers la lumière et la prise de conscience. J'ai perçu la nature illusoire de l'espace alors que j'étais encore au lycée. À la fin des années 40, j'ai compris que la causalité était une illusion. Plus tard, au long de 27 années pendant lesquelles j'ai écrit et publié des livres, j'ai bien vu la nature purement hallucinatoire du monde, ainsi que du soi et de la mémoire. Année après année, roman après roman, nouvelle après nouvelle, j'ai perdu une illusion après l'autre, le soi, le temps, l'espace, la causalité, le monde.
Vous serez le premier homme à être projeté dans le futur, biologiquement parlant.
Extrait d'un texte de Dick qui résume assez bien son état d'esprit et datant de février 1978. Alors aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, après la chronique d'Alexis Broca, nous serons en compagnie de Christophe Franco-Rogelio qui nous parlera de Dick et la musique d'Arvo Pärt en particulier. Mais en première partie, nous sommes avec vous, Emmanuel Carrère. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Une question, pourquoi la musique d'Arvo Pärt ?
Ah ben justement, il faudra écouter la deuxième partie de l'émission, mais je suis ravi que vous soyez là pour justement pouvoir entendre cela. Je vous présente rapidement, même si sans doute nos auditeurs vous connaissent. Vous êtes romancier, vous avez publié à la rentrée de septembre le récit Yoga aux éditions POL. Bien avant cela, vous aviez préfacé l'intégrale des nouvelles de Philippe K. Dick aux éditions De Noël en 2000. Et vous lui avez consacré un livre intitulé « Je suis vivant et vous êtes mort » qui est un livre biographique publié en 1993 au Seuil. Il vient de reparaître une nouvelle fois dans la collection de Poche. Seuil. Alors évidemment, quand on écrit une biographie, on mêle bien souvent ce qui est un peu de soi avec le sujet que l'on traite. Emmanuel Carrère, à quel point, malgré évidemment les très grandes dissemblances entre vous, à quel point avez-vous pu vous identifier plus ou moins à certains aspects de la vie de Philippe K. Dick au moment d'écrire ce livre ?
Heureusement pas trop. Non, parce que
Il y a forcément quelque chose.
Ma vie n'est pas forcément très brillante, mais celle de Dick a été absolument catastrophique.
C'est quand même un génie aussi.
Ah oui, tout à fait. Non, mais je pense que vraiment que Dick était un génie, oui. Et un écrivain majeur, et sans doute un des écrivains majeurs du siècle dernier. Et certainement un de ceux qui ont la plus grande influence, souterraine d'abord et visible ensuite. Mais là, non, ce que je voulais juste dire, c'est que la vie de Dick, la vie du bonhomme pendant les 53 ans où il a vécu est certainement une des moins enviables qui soit. Ça a été une vie extraordinairement malheureuse, une suite de misère, de d'échecs sentimentaux, voilà. Il a vraiment eu une vie très très triste.
Mais quand même, on ne choisit jamais vraiment par hasard le sujet d'une biographie. Il y a toujours quelque chose qui résonne avec soi-même. Alors que c'est une question peut-être un peu intime, mais qu'est-ce qui peut résonner entre vous et la vie de Philippe K. Dick ?
Quelque chose qu'on peut appeler un principe d'incertitude. Moi, j'ai écrit il y a très longtemps, avant d'écrire le livre sur Dick, un roman qui s'appelait La Moustache, et qui, si je le cite, c'est pas pour me citer moi-même avec fierté, mais c'est parce que c'était un livre très clairement sous influence dickienne, et dont le sujet, chose d'ailleurs qui n'avait pas du tout été mentionnée à l'époque, les critiques disaient que ça faisait penser à Kafka, ce qui est un réflexe absolument pavlovien. Enfin, si vous voulez, dès qu'une histoire est un petit peu bizarre, on la rapproche ou on la rapprochait de Kafka.
C'était l'histoire d'un homme, je le redis pour les auditeurs, qui se rase la moustache et personne ne se rend compte qu'il s'est rasé la moustache, et donc il croit à une mystification entre sa femme et ses proches qui, pense-t-il, chercheraient finalement à lui faire croire qu'il est fou.
Alors, vous avez raison, mais ça, c'est une des hypothèses qu'il évoque. L'autre, c'est de se dire que c'est lui qui est fou. Mmh. Et c'est là que le truc est dickien. Parce que Dick lui-même, même en dehors de des personnages de ses livres, mais même ce qu'est devenu Dick assez tôt dans sa vie et plus encore dans la dernière partie de sa vie, où il était dans une espèce de il faut, je peux pas dire délire mystique, mais au fond, il s'est... Quand Dick croyait quelque chose, il y avait en lui quelqu'un qui le croyait et quelqu'un d'autre qui était là pour diagnostiquer ça comme un délire. Généralement, les gens délirants n'ont pas l'idée qu'ils sont en train de délirer. Dick, par moments, délirait véritablement, surtout vers la fin de sa vie. Et en même temps, et c'est cette tension qui a fait de lui l'écrivain extraordinaire et même incomparable qu'il était, qui faisait qu'il était, c'était le critique le plus lucide de son propre délire. Si vous voulez, c'est comme si, vous savez, il y a le très célèbre, et justement célèbre, récit de Freud sur le président Schreber, cet homme, ce magistrat allemand du début du siècle dernier, dont Freud a fait vraiment le modèle du paranoïaque. L'étude du président Schreber est l'étude d'un cas de paranoïa devenu canonique. Le président Schreber croyait des trucs absolument délirants. Mais les livres de Dick sont dans une espèce de tension qui fait que c'est comme s'il était, il s'identifiait à la fois au président Schreber et à Freud. Comme s'il était à la fois quelqu'un qui... était dans une vision délirante du monde, dans la mesure où il croyait que c'était pas purement de la fiction, et quelqu'un qui observait ça avec toute la rigueur et la précision dont était capable Freud. Surtout les 10 dernières années de sa vie, entre l'espèce de révélation mystique qu'il a eue et sa mort, il y a eu presque 10 ans pendant lesquels il n'a pas cessé de se demander s'il était un prophète ou un envoyé de Dieu ou quelque chose comme ça sur Terre, ou une espèce de pauvres types délirants qui sans doute que l'abus des drogues, l'abus de toutes les misères qu'il avait endurées, eh ben ça lui avait quand même mis fusillé le cerveau, le résultat étant qu'il croyait des trucs aussi extravagants.
On a toujours catalogué la paranoïa parmi les maladies mentales, mais ce n'en est pas une. Il n'y a pas de perte de contact avec la réalité, au contraire. Le paranoïde est en rapport direct avec la réalité. C'est un empiriste parfait. Échappant à l'emprise des inhibitions éthiques et culturo-morales, le paranoïde voit les choses telles qu'elles sont vraiment. C'est en réalité le seul homme sain d'esprit.
Alors il y a le thème de la paranoïa, Emmanuel Carrère, qui est présent à la fois Dans votre œuvre et puis dans celle de Philippe K. Dick, le personnage de Limonov est peut-être aussi un peu paranoïaque. Mais il y a un autre thème, c'est le thème de l'étrange qu'on retrouve dans plusieurs de vos livres. Je pense à La classe de neige où le jeune Nicolas est peu à peu conduit à découvrir que son père est l'assassin d'enfants recherché par la police. Mais aussi évidemment l'étrange de la personnalité de Roman dans L'adversaire. Cette familiarité avec l'étrange, est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'elle pourrait découler de votre lecture assidue de Dick?
Oui, peut-être un peu, mais c'est marrant parce que Dick était, encore une fois, je tourne autour du même truc, hein. C'est-à-dire que je réponds à côté de votre question.
C'est pas grave.
si vous voulez, quand on parlait de paranoïa tout à l'heure, au fond, certaines des croyances, des choses auxquelles croyait Dick étaient pertinentes aussi bien dans la paranoïa que dans la croyance religieuse. Et au fond, une des questions que pose Dick, c'est quelle est la différence entre les deux ? C'est d'une certaine manière d'ailleurs là où j'ai le plus parlé de Dick, si je peux dire indirectement, dans d'autres livres, c'est dans le livre que j'ai fait qui s'appelle Le Royaume, qui est un livre sur les débuts du christianisme et qui tourne beaucoup autour de la figure de Saint Paul, et la figure de Saint Paul est très proche de celle de Dick, simplement il y en a un qui a réussi et l'autre pas. Il y a, disons, Saint Paul est arrivé à fonder une religion, ce que Dick aurait bien aimé faire, et ce que d'ailleurs a fait un de ses collègues, Lafayette Ron Hubbard, qui était un auteur de science-fiction exactement contemporain de Dick, qui a commencé sa carrière dans les années 50, qui était un auteur de science-fiction assez faiblard, mais qui à un moment a bifurqué en créant une religion qui était, comme vous le savez, l'Église en Scientologie, et l'Église en Scientologie a admirablement marché. Je pense que Dick aurait beaucoup aimé être un fondateur de religion ou à défaut un chef de secte. Et puis il n'était pas doué pour ça, il était trop doué pour la littérature. Mais au fond, c'est les livres de Dick, l'ensemble de la recherche de Dick, qui par ailleurs a pris un tour littéraire d'une force absolument extraordinaire, sont les livres d'une espèce pas d'un mystique à l'état sauvage. Je pense que Dick se voyait pas comme un mystique, mais un gnostique. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous savez, le gnosticisme et la gnose étaient cette espèce de branche un petit peu minoritaire du christianisme à ses débuts, dans l'idée qui reposait sur l'idée que la vérité sur le monde nous était caché, qu'on vivait dans une espèce d'illusion, de labyrinthe, de choses comme ça, et que tout ça avait été organisé et l'était par quelqu'un qui n'était pas le dieu bon et tout, mais par un malin génie qui a eu un démiurge qui organisait, qui nous faisait vivre dans cette illusion. Et un grand nombre des livres de Dick racontent ça. Ubik raconte ça. Le dieu venu du centaure raconte ça. Ce sont vraiment des espèces d'exploration religieuse sous cet angle gnostique. Ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure de la paranoïa, comme justement la clé, la voie d'accès, la voie royale d'accès à la réalité.
Alors parce que Ubik, justement, parlons-en, et parlons-en peut-être avec cette coloration religieuse que vous introduisez, Emmanuel Carrère, il faut dire un petit peu ce que c'est que le Ubik, parce que c'est là tout l'intérêt au fond de ce roman, ce Ubik qui peut être tout à la fois et qui donc potentiellement peut être Dieu.
Ouais. Alors attendez, vous avez commencé, il faudrait quand même essayer de... Comment est-ce qu'on... On va pas raconter ce que c'est Ubik, on va pas pour les gens qui l'ont pas lu. Enfin, en tout cas, s'il s'agit d'une intrigue de science-fiction assez classique, au fond, les personnages se retrouvent à errer, vous parliez de limbe, et c'est absolument vrai, à errer dans les limbes, dans une espèce de monde crépusculaire, où au fond, ils ne savent pas encore qu'ils sont morts, et où ils sont à la fois égarés et guidés par cette espèce de figure, de qui s'appelle Ubik.
Mais qui peut être aussi bien, on va pas dire ce que c'est, alors ne disons pas ce que c'est, mais sans rien dévoiler, on peut dire que en exergue de chacun, en épigraphe plutôt de chacun des chapitres, il y a Ubik et ceci ou Ubik et cela. Donc Ubik peut-être, ce sont d'ailleurs des messages publicitaires, peut être, je ne sais pas, un soutien-gorge, mais aussi du café, mais aussi ceci et cela. Donc Ubik, ça peut être un petit peu tout.
C'est tout. C'est tout à la... Et c'est aussi toujours, pardon, hein, j'ai l'air de poursuivre cette espèce de marotte religieuse, mais c'était celle de Dick avant d'être la mienne. C'est aussi à la fois ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit et ce que est le génie du mal. Il y a une formulation de cette vision du monde qui était celle de Descartes, qui dit qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas un génie mauvais qui me fait croire à l'existence de moi, du monde extérieur, et même de mon propre corps, et même de moi-même. Cette interrogation, qui peut paraître un peu abstraite, elle est absolument au centre de si je dis de la pensée de Dick, c'est beaucoup trop abstrait, beaucoup trop intellectuel, parce que c'était, enfin, une interrogation existentielle, c'est quelque chose qui l'a à la fois obsédé et torturé toute sa vie. Torturé et aussi fait marrer.
Et peut-être sauvé quand même aussi, non ? Est-ce qu'il y a dans la religion telle que l'envisageait Dick, quelque chose de l'ordre de l'apaisement ?
Non, je pense que quelque chose de l'ordre de l'apaisement était absolument hors de portée de Dick. C'est aussi que ce que je disais en disant qu'il a vraiment pas eu une vie marrante, c'est que tout était source d'inquiétude chez lui. Même les moments où il se marrait, parce qu'il y a beaucoup d'humour hein, dans les livres de Dick. Mais c'est toujours dans le registre d'une espèce d'inquiétude qui est à tous les niveaux, quoi, qui est une inquiétude existentielle, qui est une inquiétude métaphysique. Enfin, au fond, ce qui est, pourquoi est-ce que Dick est tellement populaire, c'est aussi parce qu'il a inventé une nouvelle terreur, un nouvel objet de terreur. Ça me frappe là, à quel point depuis 20-30 ans, après que j'ai moi-même écrit sur cette biographie que j'ai écrit 10 ans après sa mort, à quel point l'œuvre de Dick n'a pas cessé de grandir, et pas seulement par les rééditions de ses livres, le fait qu'on fasse des émissions de radio ou de télé comme on est en train d'en faire une, mais l'influence de Dick sur toute la culture, disons, populaire, en passant par le cinéma, surtout par le canal du cinéma, a été gigantesque. Je parle pas seulement des livres qui sont ouvertement des adaptations de Dick, comme Blade Runner, Total Recall, Minority Report, des choses comme ça, mais il y a tous les livres, tous les films qui ne font pas mention de Dick et qui sont comme The Truman Show, Matrix, des Existence de Cronenberg. Ils sont des films. Ah ben, vous voyez, Matrix, c'est quand même un film absolument central dans la culture populaire au tournant du siècle. Et c'est du Dick entièrement. D'ailleurs, moi, il y a encore, je sais pas, 10 ans ou 15 ans, je m'en indignais en me disant c'est dégueulasse, ces gens devraient avouer que ce sont des adaptations de Dick, ce qu'ils font. Et en fait, je trouve ça très bien comme ça, parce que tout ce que ça veut dire, c'est que Dick a gagné, c'est que le monde de Dick est devenu notre monde.
Alors il n'est heureusement peut-être pas devenu tout à fait notre monde. Je vous laisse entendre pourquoi tout de suite.
Filons vite d'ici.
La télévision avait accompli un long trajet en arrière. Face à lui se trouvait une vieille radio à modulation d'amplitude dans un coffret de bois sombre avec antenne adjacente et fil relié au secteur. Grand Dieu, se dit-il consterné. Mais pourquoi la télévision ne s'était-elle pas plutôt transformée en bout de métal et de plastique ? Après tout, c'était là ses constituants. C'était avec ça qu'elle avait été construite, pas avec une antique radio. c'était peut-être la vérification assez éprouvante d'une ancienne philosophie mise au rancard. La théorie des idées chez Platon. Des archétypes qui, pour chaque catégorie d'objets, sont la seule réalité. La forme récepteur TV avait été une identité imposée, succédant à d'autres identités qui se suivaient en chaîne, comme une procession de silhouettes dans une photo montrant la décomposition du mouvement. Les formes premières, songea-t-il, doivent continuer une vie invisible et résiduelle à l'intérieur de chaque objet. Le passé est latent. Il est submergé, mais toujours là, capable de remonter à la surface si les identifications ultérieures, par malheur et contrairement à l'expérience naturelle, disparaissent. L'homme contient non pas l'enfant, mais tous les autres hommes antérieurs, pensa-t-il. L'histoire a commencé il y a bien longtemps.
Nous avons assisté à une énorme transformation dans les dernières 48 heures et nous avons constaté que celle-ci provient de la vitesse de reproduction des cellules, qui est tout à fait surprenante. Un taux de croissance que nous
un nouvel extrait du BIC lu par Georges Claes. Que vous inspire cette idée, Emmanuel Carrère, des objets qui remontent comme ça le cours de leur évolution?
Alors, elle m'inspire quelque chose de très précis à l'instant. C'est que, pour informer les auditeurs, cette émission se passe en direct, mais pas, comme on dit aujourd'hui, en présentiel.
Non, par téléphone, on l'entend un petit peu.
Il avait été prévu que... ça se passe avec une appli que j'avais chargée sur mon smartphone, tout ça, et ça a cafouillé. Et donc, je suis en train de répondre à ça sur un téléphone, vous voyez, une espèce un téléphone d'administration qui a l'air de quelque chose, mais d'absolument...
Est-ce qu'il a un cadran? Est-ce que vous tournez les chiffres?
Même pas avec un cadran, mais presque. Et qui plus est, d'ailleurs, si c'est un téléphone d'administration... C'est parce que je suis dans un bureau dans lequel j'ai pu m'isoler, parce que je suis en train de faire un reportage qui se passe dans un service de pédopsychiatrie à la Pitié-Salpêtrière. D'accord. On m'a prêté ce bureau, et ce bureau aussi a l'air d'un endroit, je dis ça, on l'a prêté avec énormément de gentillesse, et je suis entouré de gens très très accueillants, mais vu ce qu'est l'hôpital public... être assis derrière ce bureau avec ce téléphone, c'est une expérience, enfin aussi de un peu de voyage dans le temps.
Est-ce que c'est une expérience dickienne, parce que vous nous disiez à l'instant, Emmanuel Carrère, oui, mais vous nous disiez qu'on était de plus en plus dans un monde dickien, que Dick avait gagné. En l'occurrence, en quoi a-t-il gagné avec ce téléphone-là? Est-ce qu'on peut considérer que c'est dickien ou pas?
Non, ça, je suis en train de vous dire ça parce que ça me fait marrer sur le moment. Non, mais ce qui peut nous faire penser... Il y a une phrase, la phrase la plus dickienne qui a été prononcée depuis très longtemps. Je l'ai lue avec une stupéfaction assez admirative. C'est Elon Musk, le patron de Tesla, qui est réputé à la fois pour ses certaines fulgurances et des traits, alors là, assez cinglés. Il disait récemment... les chances que nous soyons dans la réalité de base sont d'environ 1 sur 10 millions. Je ne sais pas d'où il sort cette statistique, mais cette idée de la réalité de base, c'est-à-dire de la réalité réelle à laquelle se sont entre-temps superposées des infinités de clones ou de substituts ou de la réalité, c'est une idée totalement dickienne et c'est une idée totalement... Je pense que c'est une description précise du monde dans lequel on vit.
Mais ce qui est dickien aussi, c'est qu'on pourrait imaginer que si ça se trouve, on vit juste dans la réalité d'Emmanuel Carrère en ce moment, que cette émission de radio, elle n'existe qu'en dans votre cerveau. Est-ce que parfois vous y pensez à ça? Qu'il n'y a peut-être pas d'auditeur en fait?
Oh bah oui, ça arrive d'y penser. Ça arrive d'y penser. Dieu merci, pas trop longtemps, parce que sinon, quand on y pense trop longtemps et avec une certaine constance, ça s'appelle la folie. Mais je veux dire, on a tous une petite capacité de folie et capacité de folie avec ce que ça suppose d'une forme de lucidité paradoxale. Mais heureusement, il faut pas s'y installer, quoi.
Mais pour apprécier Dick, il faut l'avoir, cette capacité de folie.
Oui, il faut l'avoir, mais disons que si on l'a pas suffisamment, Dick vous l'instille. C'est aussi, c'est les Je me souviens, Dick a été contemporain et de la naissance et de la diffusion du LSD dans les années 50 et 60 aux États-Unis. Et l'histoire de la diffusion du LSD aux États-Unis est une histoire passionnante sur laquelle on pourrait parler des plombes. Et Dick a passé à un moment pour vraiment le chantre du LSD, alors qu'en réalité il en a très peu pris. Enfin, je pense qu'il était comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Qu'est-ce que je voulais dire à ce propos ? Enfin, en tout cas, que cette vision du monde qui est celle de Dick, qui est la vision du monde instillée par le LSD, donne une impression, quand on y est, de lucidité absolue. Oui. On a l'impression qu'on sait. Et ce que je voulais dire, c'est que quand Albert Hoffman a découvert le LSD, synthétiser le LSD pour le compte des laboratoires sans dose, et qu'ensuite Timothy Leary a la popularisé aux États-Unis, c'était avec l'idée que c'était d'abord un simulateur de folie, que ça avait des applications psychiatriques qui étaient de faire comprendre à des psychiatres de l'intérieur ce qu'éprouvaient leurs patients schizophrènes. Oui. C'était ça au début. Et ensuite, il y a eu l'idée que c'était non seulement un simulateur de folie, mais un simulateur d'état mystique et un accès à la réalité ultime, autrement dit ce qu'on appelait Dieu auparavant. Et on est encore dans l'espèce d'oscillation perpétuelle de Dick entre l'accès à la réalité absolue, ce qui est celle d'un esprit religieux ou mystique, et le délire paranoïaque.
Alors plus terre à terre, vous avez tout à l'heure cité une phrase de Elon Musk. Moi, je voudrais citer une phrase que j'ai trouvée dans Les Échos. On pouvait la lire encore récemment. C'était avant que les stations de ski ne soient fermées dans le journal. Donc Les Échos, cette phrase: la station de Val Thorens a prévu d'utiliser un drone déjà testé l'an dernier pour surveiller les pistes et éviter les regroupements de skieurs. Cette phrase un peu inquiétante, un peu étrange, aurait pu être écrite par Dick, selon vous, Emmanuel Carrère?
Oui, mais honnêtement, elle aurait pu être écrite par beaucoup d'autres auteurs de science-fiction, parce que c'est une représentation d'un réel quadrillé par une surveillance policière, tout ça. C'est-à-dire que
c'est trop banal au fond pour Dick.
C'est relativement banal, quoi, en termes de science-fiction.
Sauf que c'est la réalité, quoi. Donc
plus loin. Et effectivement, ça correspond à notre réalité, mais ce sont des anticipations à la fois pertinentes et pas très.
Il leur manque une dimension, voilà, en fait.
Que Dick, il a trouvé des trucs beaucoup, beaucoup, beaucoup plus barrés et beaucoup plus stimulants que pour l'esprit que ça.
Oui, comme par exemple les portes qu'on doit payer pour les ouvrir.
La porte refusa de s'ouvrir et déclara:
5 cents, s'il vous plaît.
Il fouilla dans ses poches. Plus de pièces, plus un sou. Je paierai demain, dit-il à la porte. Il actionna à nouveau la poignée, mais elle resta obstinément verrouillée. Ce que je vous donne, l'informa-t-il, est de l'ordre du pourboire. Je ne suis pas obligé de payer.
Et je ne suis pas de cet avis. Consultez donc le contrat de vente que vous avez signé en achetant ce Conapt.
Il alla chercher le dit contrat dans le tiroir de son bureau. Depuis le jour de la signature, il avait maintes et maintes fois éprouvé le besoin de s'y référer. Et c'était vrai. Le paiement pour ouverture et fermeture n'avait rien de facultatif.
Vous voyez bien que j'ai raison.
Lança la porte avec suffisance. Du tiroir jouxtant l'évier, Joe Shipp tira un couteau en acier inoxydable avec lequel il entreprit de dévisser le verrou de son insatiable porte.
« Je vous poursuivrai en justice !»
fit cette dernière, tandis que tombait la première vis. « Je n'ai encore jamais été poursuivi par une porte, » rétorqua Joe Shipp, « mais je pense que je n'en mourrai pas. »
« Cette petite expérience chromosomique et révolutionnaire mérite d'être enregistrée en cassette vidéo pour être classée dans les histoires de... »« Vous ne voyez aucune autre explication ?»
La réalité terrestre se diffère de l'au-delà.
Je ne dis pas que l'insolite est inintéressant, surtout vu de derrière une caméra.
Alors, et les mystères pour vous, qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi toujours leur donner une explication alors que la plupart ne sont que des produits de l'imagination ?
Extrait donc du Biclou par Serge Renko et Mathilde Lebréquier. Rien que cette phrase, la porte refusa de s'ouvrir et déclara ses cinq sens. C'est une fenêtre jubilatoire sur un autre monde. Est-ce que du point de vue de la technique littéraire, Emmanuel Carrère, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, son grand talent justement, c'est de nous faire, ça ne serait pas de nous faire entrer directement dans un monde différent, mais avec un sentiment de grande simplicité. Est-ce que vous souscrivez à cela ou est-ce que vous avez une vision différente?
Non, c'est vrai. C'est vrai. Et la technique littéraire de Dick est, oui, a une espèce d'évidence, de transparence. On peut la juger au premier abord rudimentaire. On a beaucoup dit de Dick, et je me suis même surpris à le dire quelquefois, que c'était un écrivain assez rusto qui écrivait mal.
Et efficace quand même.
Oui, non mais vous savez, l'écrivain qui écrivait mal, c'était ce qu'on a beaucoup dit de Dostoïevski, c'est ce que Nabokov disait de Dostoïevski.
À qui vous le comparez d'ailleurs souvent.
C'est un peu le même genre d'écrivain, Dick. C'est un écrivain comme Dostoïevski, c'est un écrivain effectivement assez... c'est pas un esthète, c'est pas un parnassien, c'est pas... mais c'est un écrivain d'abord immédiatement reconnaissable et qui est capable de... Enfin, de vous entraîner d'une façon qui a l'air très très simplette, mais dans des méandres extraordinairement complexes de la psyché de ces personnages, et non seulement des personnages, mais du monde qui les entoure et dont on ne sait jamais que si c'est une projection, si c'est uniquement une projection, vous voyez, de ce qu'il pense, de ce qu'il les traverse, ou s'il a une existence objective. Enfin, tout ça pour dire que c'est un des plus subtils des écrivains rustaux que je connaisse.
Ben voilà qui est un très beau compliment. Merci beaucoup Emmanuel Carrère de nous avoir parlé par téléphone aujourd'hui, technique rudimentaire mais efficace, de l'écrivain américain Philip K. Dick. Pour aller plus loin, on peut se procurer la biographie que vous avez consacrée donc à l'auteur de Ubik. Elle s'appelle Je suis vivant et vous êtes mort. On peut la trouver dans la collection Point des éditions du Seuil. Après la chronique, nous retrouverons Christophe Franco Rogelio pour évoquer Dick, et la musique. Mais tout de suite, c'est le moment de la carte blanche du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Une carte blanche aujourd'hui assurée par Alexis Broca, écrivain, auteur dernièrement de La mort j'adore aux éditions Sarbacane, mais aussi de Un dieu dans la machine, titre dickien de votre roman de SF, Alexis, paru en 2018 chez Phébus. Vous êtes enfin rédacteur en chef adjoint à Lire, le magazine littéraire. Bonjour à vous.
Bonjour Mathieu.
Et vous évoquez pour nous aujourd'hui un souvenir de votre jeunesse en lien avec Philip K. Dick.
Et oui, je voulais vous dire qu'on n'oublie jamais sa première rencontre avec un écrivain qu'on lira toute sa vie. Et je voulais donc vous raconter comment, à 10 ans, j'ai été foudroyé par la lecture d'une nouvelle de K. Dick. Cela se passait en 1984, la guerre froide battait encore son plein, et tous les soirs, à la télévision, nous avions droit à des cartes d'Europe où les missiles nucléaires Pershing américains faisaient face aux SS-20 soviétiques. À l'époque, l'idée d'une destruction mutuelle paraissait encore probable, et le petit garçon que j'étais s'intéressait beaucoup aux fictions qui parlaient de cette destruction mutuelle, et c'est ainsi que j'ai acheté un recueil de la merveilleuse collection La Grande Anthologie de la Science-Fiction, et ce recueil s'appelait Histoire de fin du monde, et dedans, j'ai lu cette nouvelle de Philip K. Dick intitulée Foster, vous êtes mort.
Alors de quoi parlait-elle?
Foster, vous êtes mort, ça se passe dans une Amérique fictive, au bord de la guerre nucléaire, une Amérique où dans les écoles on apprend aux enfants des techniques de survie, où les gens dépensent environ 40% de leurs revenus pour la défense et où tout le monde possède un abri antinucléaire. Tout le monde, sauf Mike Foster, qui est un petit garçon âgé d'environ 10 ans, qui est la risée de ses camarades parce que lors de la guerre, eh ben, il mourra forcément. Alors, ben Mike, il s'obsède pour les abris anti-atomiques, il traîne dans les boutiques qui les vendent, il s'efforce de convaincre son père d'en acheter un. Le problème, c'est que son père, qui travaille comme antiquaire, c'est un rebelle. Il a compris que cette terreur qu'on instille à la population n'était qu'un moyen inventé pour faire tourner la machine capitaliste et pousser les gens à acheter un tas de matériel de survie. Mais comme il voit son fils terrorisé et mis au banc de sa classe, eh bien ce père, il cède et il achète le fameux abri à crédit alors qu'il ne peut pas se permettre. Et pendant quelques jours, tout va bien. La famille Foster cesse d'être une famille à part. Le petit Mike est de nouveau respecté par ses amis. Et le soir, eh bien, il descend dans l'abri antinucléaire où il se sent vraiment bien. jusqu'au jour où le père ne peut plus payer les traites de l'abri. Et ce jour-là, Mike rentre de l'école et découvre un grand trou dans le jardin à la place de son abri. Imaginez alors les sentiments de ce petit garçon et imaginez les sentiments que peut avoir un jeune lecteur de 10 ans en 1984 devant une telle histoire.
On imagine, c'est terrible.
Ah, c'est terrible. Et en effet, c'est terrible et en même temps, c'est magnifique parce que vous trouvez votre reflet dans un texte où ne vous y attendez pas. C'est comme découvrir son visage sur un tableau dans une maison étrangère. C'est très étonnant. Hein. Et quand vous lisez très jeune des textes qui entrent à ce point en résonance avec vous-même, vous en souvenez toute votre vie, c'est sûr. Et depuis, je suis devenu un grand lecteur de K. Dick, de ses romans Substance mort ou Le dieu venu du centaure. Et je révère particulièrement ces nouvelles que j'ai la chance de posséder dans l'ancienne édition de Noël. Et j'ai lu, bien sûr, beaucoup de discours critiques sur Dick, dont il ressort souvent qu'il était un maître de l'invention, de l'intrigue tordue, de l'illusion, mais pas un styliste, pas un auteur qui touche le lecteur ou qui l'émeut. Et sans doute, c'est exact pour bien des textes, mais pas pour Foster, vous êtes mort. La tragédie de ce petit garçon intoxiqué par une propagande terrifiante n'a pas seulement été pensée, elle a été profondément ressentie par K. Dick lors de son écriture, et dès le premier paragraphe, ça saute aux yeux.
Et ben voilà qui nous donne très envie de le lire ou de le relire. Merci beaucoup, merci Alexis, merci Broca, pour ce souvenir de jeune lecteur. À très bientôt. C'est toujours la Compagnie des œuvres que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture, au quatrième et dernier temps de notre série d'émissions consacrée à l'écrivain de science-fiction Philippe K. Dick, l'auteur notamment de Rapports minoritaires, du Bic ou de La machine à préserver, dont voici un extrait pour introduire ce dernier moment consacré à Dick et la musique.
Le temps passa. Sauvegarder pour l'éternité la musique de ces grands compositeurs, c'était à ses yeux une entreprise à la fois belle et tragique. Comment en serait-il remercié? Sur quoi allait-il tomber? Quelle forme tout cela revêtirait-il quand il en aurait terminé? À toutes ces questions, il n'existait pour l'instant nulle réponse. Pendant qu'il méditait ainsi, le voyant rouge de la machine s'était mis à clignoter. Le processus de transformation était achevé, la métamorphose accomplie. Il ouvrit la porte. Un oiseau, et non un mammifère, sortit du compartiment. L'oiseau Mozart était ravissant, petit, gracieux, avec le plumage déployé d'un paon. Il s'avança quelque peu dans la pièce en sautillant, puis, curieux mais affectueux, revint vers le labyrinthe. Tremblant, ce dernier se baissa, la main tendue. L'oiseau Mozart vint tout près. Puis d'un seul coup, il s'envola. Il l'appela doucement, patiemment, avec force câlinerie, et l'oiseau finit par revenir se poser devant lui. Il le caressa un long moment du bout des doigts, tout en réfléchissant. À quoi ressembleraient les autres? Impossible à imaginer. Il saisit avec précaution l'oiseau Mozart et le plaça dans une boîte. Il fut encore plus surpris le lendemain, en voyant sortir de l'appareil un scarabée Beethoven, austère et pétri de dignité. Ensuite, avait surgi l'animal Schubert. Tout fou, ce petit être proche de l'agneau courait bêtement en tous sens et ne voulait que jouer. Alors labyrinthe arrêta tout, histoire de réfléchir sérieusement au problème. Quels étaient les vrais facteurs de la survie? La plume légère valait-elle mieux que les griffes ou les crocs acérés? Labyrinthe ne savait plus que penser. Il s'était plutôt attendu à trouver une armée de solides blaireaux ou de créatures griffues et écailleuses, prêts à s'enfouir, à se débattre, à mordre et à ruer pour défendre leur peau.
Cet extrait de La machine à préserver, lu par Christophe Bro, et qui dit bien l'amour de Philippe K. Dick pour la musique. Christophe Franco-Rogelio, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous présente souvent comme un passionné, et puis un passionné de musique en particulier. Musique que vous auriez découvert à l'âge de 2 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous êtes aujourd'hui...
Oui, ben, en éveil musical, comme pas mal de musiciens de ma génération.
Oui. Vous auriez rêvé aussi d'une machine à préserver. Enfin bon, heureusement, la musique n'est pas en danger, mais enfin, ça peut toujours servir, on ne sait jamais.
Oui, bah c'est intéressant parce qu'elles sont apparues quand même assez tard finalement, ces machines à préserver. On avait la notation musicale qui a eu un certain développement sur plusieurs centaines d'années, et puis c'est vrai que là au XXe siècle, avec l'enregistrement analogique puis numérique, on a de super machines à préserver aujourd'hui.
Oui. Donc vous êtes chanteur, vous êtes compositeur et vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage dans lequel vous faites un rapprochement entre le compositeur Arvo Pärt et Philippe K. Dick, même si votre livre est davantage tourné sur la personne de Arvo Pärt et sur sa musique que sur la littérature de Dick. Vous l'avez intitulé Arvo Pärt, Philippe K. Dick, Éthique du temps, et vous l'avez publié aux éditions Camion Blanc. Et alors il faut dire que si vous venez peut-être davantage du monde de la musique. Côté littérature, c'est Dick que vous mettez au sommet, c'est votre écrivain préféré?
Oui, sans aucun doute. Ouais, oui, je l'ai découvert un peu par hasard à l'époque de la sortie de Minority Report. J'avais aimé le film, et puis ma grand-mère m'a un jour offert le recueil de nouvelles qui porte le même nom, dans lequel on trouve donc Rapport minoritaire et une nouvelle qui m'a vraiment marqué, qui est La fourmi électrique.
Pourquoi?
Il faut voir que j'étais au collège à ce moment-là, et puis dans La fourmi électrique, il y a un extrait, un passage assez extraordinaire en fait, où le personnage principal s'interroge sur la nature de sa réalité. Mmh. Et bon, voilà, pour un jeune collégien, c'était assez incroyable comme moment. Je peux vous citer le passage si on a un petit peu de temps. C'est très court. Hein. La réalité objective n'est que le produit d'un raisonnement destiné à formuler l'universalisation hypothétique d'une multitude de réalités subjectives. En lisant ça, je crois que j'ai vraiment pris conscience que la littérature, avait quelque chose à dire sur le monde qui m'entourait, quoi.
Et à quel moment est-ce que vous avez fait le lien avec votre intérêt pour la musique? À quel moment vous rendu compte qu'il y avait dans la littérature de Dick tout ce substrat musical?
Et bien, c'est petit à petit, je pense. En fait, il parle beaucoup de musique quand même dans ses nouvelles, dans ses romans. Et c'est peut-être la prise de conscience, elle est peut-être plus tardive quand je commence à travailler sur Arvo Pärt, et en fait que je lis les derniers ouvrages, donc la trilogie divine, oui, dont Étienne Barillier et Laurent Caissier ont un petit peu parlé. En fait, à ce moment-là, je prends vraiment conscience que la musique est centrale en fait, notamment dans Radio Libre à Bleu-Mut. Et puis en fait, il y a aussi une fascination, je pense, pour sa culture qui est très large en fait. C'est-à-dire qu'il va autant parler et même donner un titre à un de ses romans en hommage à John Dowland, qui est un compositeur anglais du XVIe siècle. Il va écouter ça comme il va écouter Jefferson Airplane, et il va même dans son exégèse, il a même un moment où il parle d'un de ses concepts de temps assez complexe, et il va se référer à un texte de Grace Leak du Jefferson Starship. Et je crois que ça, en tant que musicien, c'est cette prise de conscience là est très intéressante en fait, que il y a autant à trouver dans la musique de Beethoven, dont il parle extrêmement bien, que dans Jefferson Airplane ou d'autres artistes de pop.
Moussad, le général Bookman, ouvrit le troisième tiroir de son imposant bureau et introduisit une bobine dans son petit magnétophone. Les airs de Dowland pour 4 voix. Debout, il écouta le chant qu'il préférait à tous ceux du second livre du luth. À présent abandonné et délaissé, je soupire et je pleure et me pâme et je meurs dans une détresse sans fin, une mortelle douleur. le premier compositeur à avoir écrit de la musique abstraite, songea-t-il en changeant de cassette. C'était maintenant le Lacrimae Antique Pavana. De là découlaient les derniers quatuors de Beethoven, et tout le reste, sauf Wagner. Bookman détestait Wagner et ses semblables, comme Berlioz qui avait fait reculer la musique de trois siècles. Jusqu'à ce que Karlheinz Stockhausen l'eût modernisé avec son Gesang der Jünglinge.
« Couler mes larmes », dit le policier, lu par Christophe Brault. Christophe Franco-Rogelieu, il y a un côté expert, un côté musicologue aussi, qui transparaît, notamment dans cet extrait, mais dans beaucoup d'autres, dans la littérature de Dick.
Oui, oui, c'est amusant. Et en même temps, il se méfie un petit peu aussi des postures, parce qu'il y a une anecdote qu'on retrouve dans sa biographie par Lawrence Sutin, où en fait le biographe explique qu'il aimait piéger un de ses amis qui détestait Tchaïkovski, en lui faisant croire qu'il lui faisait écouter du Tchaïkovski pour l'amener à critiquer ce qu'il écoutait, et puis en fait il lui révélait à la fin que bon, en fait il écoutait du Berlioz. Donc c'est marrant parce que il y a un lien avec cet extrait. Donc oui, il est vraiment on sent une expertise, et en même temps il n'y a pas de prétention à toucher une vérité technique ou quelque chose comme ça.
Alors, une soirée idéale pour Philippe Cadix, c'était écouter du Buxtehude ou du Monteverdi, son Orfeo ou ses madrigaux. Donc il y a une consommation en fait de musique qui date d'assez loin, qui revient de loin, puisque il a, comme on le sait, on l'a vu dans l'émission de lundi, tenu un magasin appelé University Music. Tout cela, évidemment, est assez biographiquement intéressant pour comprendre mieux son rapport avec la musique. Vous êtes penché là-dessus aussi, Christophe Franco-Rogelio?
Oui, un petit peu, forcément. Moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'est le côté auteur de science-fiction, c'est-à-dire que du coup son expérience de la musique, elle se fait dans un magasin où ils vendent du matériel aussi. Donc il se pose la question, alors je sais plus, là j'ai plus en mémoire le texte où il en parle, mais il se posait la question de: est-ce que la musique qu'on entend à travers les haut-parleurs, est-ce que ça reste une fois passé dans le moulinet de l'artifice technique, est-ce que ça reste la musique en elle-même ou une simulation de la musique, c'est-à-dire qu'il se posait la question de où commence l'art, jusqu'à quel point d'abstraction on peut aller. Enfin, je pense que ce prisme-là, il est intéressant et pour un musicien, pour un musicologue aussi, bien sûr, parce que justement, on parlait d'enregistrement analogique et d'enregistrement numérique. La différence entre les deux, elle peut faire l'objet d'un débat assez houleux dans le monde des musiciens. Et oui, je trouve ça assez intéressant, ouais, qu'il se posait ce genre de questions, quoi. Et je sais, pareil, le texte me, je pense que c'est dans la biographie aussi de Lawrence Sutin, que en fait il parle du matériel qu'il utilise pour écouter la musique, quoi. Et qui a priori pour l'époque était de très bonne qualité.
Alors entrons dans le vif de votre sujet, c'est-à-dire la comparaison que vous faites, ou plutôt le rapprochement que vous faites avec le compositeur estonien Arvo Pärt. Alors je le prononce pas bien, vous l'avez prononcé autrement tout à l'heure. Qu'est-ce qui...
Pärt,
voilà. Peut-être qu'on peut dire d'abord un mot sur Arvo Pärt pour dire qui il est et le présenter un petit peu aux auditeurs.
Oui, bah alors c'est donc c'est un compositeur estonien donc qui vient d'un cursus comment dire classique quoi, qui est pur produit de conservatoire.
De musique savante.
Mais à une époque de musique savante. Ouais. Mais à une époque où sous l'URSS, enfin, l'ex-URSS, à une époque où une certaine direction de la musique savante est mal vue, donc ça, tout ce qui est la spéculation justement technique au sens de technique musicale des modernes, donc de Schoenberg et de toute l'école qui a suivi. Donc cette musique-là est très mal vue, et en même temps il y a un autre type de musique qui est très mal vue, c'est tout ce qui est musique ancienne, donc on va dire fin du Moyen-Âge, début Renaissance, et qui est très marqué par le contenu religieux. Et alors du coup à cette époque-là il y a tout un tas de groupes de musiciens qui se forment, et Arvo Pärt compose à cette époque-là, quand il est au conservatoire et quand il en sort, de la musique donc vraiment très marqué par cette école de Schoenberg et de la suite. Et ensuite, il a une pause, une sorte de pause d'environ 10 ans, pendant laquelle il s'arrête quasiment complètement de composer. Et il revient un petit peu de manière extraordinaire en 1976 avec une pièce toute simple qui s'intitule Furalina, et dans laquelle en fait il invente un système d'écriture musicale tout à fait inédit et voilà qui est c'est absolument singulier.
On en écoute justement un petit extrait. Alors pour vous, Christophe Franco-Rogelio, la musique d'Arvo Pärt et les écrits de Philippe K. Dick sont l'objet d'une intrication à laquelle vous donnez un nom. Et ce nom, c'est la rédemption. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous en êtes venu à cette comparaison par le biais de la rédemption et par le biais de tout l'univers religieux ?
Oui, alors en fait, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment... ça concerne peut-être plus vraiment la fin de la carrière de Dick, les ouvrages qu'il écrit avant sa mort, et notamment l'exégèse.
Après sa révélation de 74.
Voilà, c'est ça. En fait, il y a quelque chose dans l'approche du temps. Ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué très tôt dans les ouvrages de Dick, dans des interviews aussi qu'il donne. C'est cette idée qu'il y a un temps caché derrière le temps qu'on a sous les yeux, un monde caché derrière le monde qu'on a sous les yeux. Et qu'il y a des manières d'y avoir accès. Et dans la musique d'Arvo Pärt, il y a dans la technique même en fait une approche qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'on a deux voix qui sont deux lignes musicales qui sont reliées l'une à l'autre de manière très systématique et qui ont une valeur symbolique pour le compositeur et qui ont un rapport aussi avec cette vision de un monde dans lequel le Dieu serait caché, ou en fait il y a quelque chose de très néoplatonicien.
Vous dites qu'il y a une ligne mélodique qui représente ses péchés et une autre qui représente le pardon.
C'est ça, voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est comme ça que vous trouvez Dickien en particulier.
Et en fait, dans la manière dont Dick parle, notamment du personnage de Angel Archer dans La Transmigration de Timothy Archer, il y a quelque chose de cet ordre-là, et lui-même dit que que ses ouvrages, il a l'impression que ses ouvrages peuvent amener une espèce de soin, en fait, le terme ce serait plutôt peut-être ça, et à certaines personnes, et du coup Arvo Pärt a aussi cette volonté-là donc à travers une expérience mystique en fait de la musique, d'apporter une espèce de réconfort, de soin.
Et qui est de l'ordre de la contemplation, et c'est là aussi où ce mot est intéressant en rapport avec la tradition chrétienne dont Dick croit être l'héritier, celle des premiers chrétiens, celle qui est aussi proche des platoniciens, disons. Il y a ça à la fois dans la musique et dans les livres, le rapport à la contemplation.
Oui, oui, tout à fait. Alors, pour la rédemption, j'y repense, mais en fait, je crois que Dick, en fait, parle même d'une rédemption qui est pour lui, en fait, dans le personnage de Angel Archer. Et concernant la contemplation, oui, il y a quelque chose d'un arrêt du temps, en fait, qui est très important pour Pertz, le système Tintinabuli, donc qu'il crée avec Furalina, est là pour figer le temps. Et Dick, en fait, a cette vision donc du temps qu'il appelle le temps orthogonal, le temps qui est caché derrière le monde des apparences, en fait, et qui serait non pas une forme d'éternité figée, mais un temps ralenti dans lequel, en fait, et ça, c'est ce qu'on retrouve dans Ubik, dans lequel on aurait des objets qui subiraient une forme d'accrétion et donc une forme de changement, mais très très lent, en fait. Et ce temps-là est le temps divin, en fait.
Alors, est-ce que des réalisateurs de films ont imaginé d'utiliser Pertz, peut-être en lisant votre livre, pour la bande originale de leur film, adapté de Dick, bien sûr.
Alors, à ma connaissance, non. Je pense que le plus proche, bon, je peux me tromper, mais le plus proche, à mon avis, et c'est pour le film Scanner Darkly en fait de Richard Linklater, la BO en fait de ce film est composée en grande partie de morceaux du groupe Radiohead. Mm-hmm. Et je sais que Thom Yorke est un grand amateur d'Arvo Pärt. Et que très tôt dans leur carrière, dès qu'ils ont commencé à faire des morceaux qui s'éloignaient un petit peu des formes traditionnelles du rock, bon, il y a des influences de Arvo Pärt qui sont arrivées. Et en même temps, Thom Yorke est aussi un grand lecteur de Dick. Et pareil, les textes de OK Computer font référence pour certains à Dick. Donc, je pense que l'expérience la plus proche d'un mélange entre Pärt et Dick, ce serait ce film-là, Scanner Darkly, tout en sachant que, a priori, à ma connaissance, et j'ai vraiment cherché à trouver ça, mais a priori, Dick ne connaissait pas la musique d'Arvo Pärt. Donc le lien est vraiment un lien de
que vous faites vous-même,
de lecteur et d'auditeur. Voilà.
Est-ce que c'est la musique des sphères qu'on entend en écoutant Arvo Pärt et qu'on lit la fiction de
Oui. Oui, moi j'ai envie de. C'est amusant parce que justement c'est mon maître en composition, Régis Campo, donc grand compositeur de musique contemporaine, j'en ai discuté avec lui parce que lui est un grand lecteur de Dick et un amateur d'Arvo Pärt.
Et donc il est d'accord avec cette idée.
Oui. La musique des sphères, on y est.
Merci beaucoup Christophe Franco Rogelio. Pour aller plus loin, il faut évidemment lire votre livre Arvo Pärt, Philippe K. Dick, Éthique du temps. Ça va mieux en le lisant, il y a des choses qu'il faut expliciter sur la durée. Il est disponible aux éditions Camion Blanc. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinoine, Vanessa Prévost, Laurence Billet et Jérémy Kaufmann. Demain, dans La Compagnie des poètes, Manu Farine reçoit Jérôme Prieur et Charles Penquin. Quant à nous, on se retrouve lundi avec En Nouvelle Écoute, une série consacrée à l'écrivain anglais Lewis Carroll.